mais quel bon moment de cyclisme nous offre le coureur Total Énergie.
Ah ça oui, mon Richard, quel braquet incroyable.
Il est clairement en train de revenir, prêt à relever tous les défis.
Avec un tel soutien du public pour l'équipe Total Énergie, ça donne des ailes.
Toutes les énergies du sport nous rassemblent. Le meilleur du cyclisme se vit avec Total Énergie.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Vous écoutez
RMC. RMC, Mosca,
Zap.
Alors, juste un mot pour parler de l'Allemagne qui était très bien entrée dans son Euro et qui s'est fait peur hier face à la Suisse. Un match nul, un partout arraché dans les arrêts de jeu, sur une tête magnifique d'ailleurs de Füllkrug. S'il ne n'égalisait pas, il se retrouverait deuxième. Alors, ça aurait pas forcément été une catastrophe, mais on les a sentis quand même, dans l'incompréhension de cette prestation après deux matchs réussis. Vincent, l'Allemagne qu'on avait vue assez belle, hein, sur ses deux premiers matchs, est retombée dans ce qu'on a vu depuis à peu près un an et demi, c'est-à-dire une équipe qui est prenable en fait.
Comme nous.
Ouais.
Mais comme nous. Comme même l'équipe de France. On peut faire des similitudes quand même avec l'équipe de France. Ils tournent pas. Ils reçoivent chez eux, ils ont la pression, ils tournent pas. Après, faire un groupe, c'est compliqué. C'est très compliqué. Moi, ils sont très aseptisés. C'est-à-dire, t'en mets pas un pour remplacer l'autre. C'est moyennasse. En vérité, ils ont un groupe moyen.
La différence, c'est que les deux premiers adversaires sont très moyens. Qu'on n'a pas pu voir leur défense à l'épreuve d'une adversité de bon niveau, et que ça a été le cas hier soir, et que derrière ils sont très très inquiétants. Le fameux Tal là qui l'a sorti à un moment donné.
Suspendu en 8e.
C'est peut-être une bonne nouvelle pour eux.
Mauvaise nouvelle, parce que Rüdiger est blessé, très incertain pour le 8e, blessé avec
ça. C'est une moins bonne nouvelle.
C'est
mais par contre, contrairement à nous, c'est pour ça que c'est difficile de faire la comparaison. Si tu as défensivement des problèmes, voire des lacunes, voire quelques carences, à un moment donné, tu as un seuil de compétence, hein, parce que tu vas tomber contre des grosses attaques et tu vas souffrir. Et là où les Allemands, hier soir, et notamment les suiveurs, voire la presse, sont inquiets, c'est qu'ils se sont fait bouger par les Suisses.
Ouais, belle petite équipe.
C'est une belle petite équipe, mais c'est pas. Ils font des favoris.
Oui,
c'est des embrouilleurs. Et sauf que les embrouilleurs, ils ont fait la misère aux défenseurs de l'Allemagne, tu vois. Et ça, nous, on l'a pas vécu encore. Donc tu peux pas faire. Par contre, c'est vrai qu'offensivement.
Il y a le choix de Nagelsmann aussi, Rigno, de remettre trois fois de suite la même équipe.
Ils ont pas beaucoup d'automatisme, il a créé très récemment en fait.
Oui, hein. et puis d'un autre côté, la place de premier était trop importante pour s'amuser.
Alors là, en finissant premier, ils évitent de jouer l'Italie ou la Croatie en 8e.
Donc c'est pour ça qu'il a été obligé de mettre la grosse équipe.
Mais il se retrouve en revanche dans la moitié de tableau la plus relevée avec l'Espagne et le Portugal. D'ailleurs, pour la France, finir premier éviterait de tomber dans cette moitié où il y a du coup Espagne, Portugal et Allemagne. Donc d'où l'importance d'être premier pour les
Bleus. Oui, mais Pierrot, tu m'en cites deux là, mais il y en a. Ils ne sont pas obligés de rencontrer les deux.
Non.
Ils vont se manger le foie à un moment donné.
Mais quand même, c'est. Pour l'instant,
parce que quand on dit ça, on a l'impression qu'il faut enchaîner le Portugal, l'Espagne.
Tu peux avoir l'Angleterre qui s'y ajoute aussi.
Quand tu arrives en demi-finale, tu rencontres un gros. Hein, ça, c'est un peu comme ça.
Hein. Allez, on zappe l'Allemagne. On va dire un mot de Jonathan Clauss, qui était en conférence de presse cette semaine et qui a fait évoluer son discours sur son avenir après avoir quasiment acté un départ. Et ben, il est repassé à une possibilité de rester à l'OM. Pourquoi ? À cause de Roberto De Zerbi.
Ça extrêmement positif parce qu'on connaît ses qualités d'entraîneur. On a pu l'affronter avec l'OM contre Brighton en Europa League et ça peut peser dans la balance forcément parce que quand vous savez qu'un coach arrive avec des principes de jeu tels que lui là, ça peut forcément être plaisant de jouer sous ses ordres. Ça rabat peut-être un peu plus les cartes et on verra ce que ça va donner cet été.
Bon, je vous rappelle qu'il y a une semaine avant, il avait dit si tout le monde s'y retrouve, oui, en effet, il y aura un départ. Hein, donc après, je sais pas si c'est une réponse, diplomatique. Eric,
Je suis pas sûr. En réalité, il ouvre la porte à une éventuelle négociation pour une prolongation, parce que le coach lui plaît, qu'il pense qu'il peut s'éclater avec ce coach-là, parce que à la limite, il est pas obligé. Hein, il rentre dans sa dernière année de contrat. Il aurait pu éluder faire une réponse bateau. Là, j'ai quand même l'impression que l'arrivée de Zerbi le titille.
Il va falloir qu'il signe Zerbi à un moment, Eric, non ?
Ouais, c'est Zerbi, ça.
Parce que c'était été annoncé pour il y a une semaine, puis après trois jours après.
Celle-là était bonne. Ouais. Celle-là était bonne.
Qu'est-ce qui coince, Eric, toi qui es à Marseille?
Tes Zerbi, celle-là.
Qu'est-ce qui coince avec deux Zerbi, Eric?
Bah, ce qui coince, tu fais. T'as vu maintenant pour signer un contrat, j'ai l'impression qu'il y a la NASA. Il y a la NASA. Ah oui, de mes deux B pour les joueurs, les entraîneurs.
Rachid Zerwa n'a pas mis les initiales en bas du contrat.
Flo Germain nous expliquait la semaine dernière qu'il vient avec 6 adjoints plus un directeur sportif ou un pseudo-directeur sportif.
Ça coûte cher.
Donc, il y a énormément de choses à régler.
T'as 8 contrats. Mais vous pensez que Jonathan Clauss, il peut rester avec tout ce qui s'est passé avec Mehdi Benassia et compagnie?
C'est ça la question.
Rappelez-vous l'épisode quand même qui a été.
Moi, je trouve que c'est bateau ce qu'il dit. Eric, tu dis c'est pas bateau. Moi, je pense que c'est bateau. Il dit oui, bien sûr.
Il est poli.
Il va pas se filer les mains. Il est poli.
Ouais,
il dit oui. Il y a deux Zerbi qui arrivent. Ça peut être une possibilité.
Qu'est-ce qu'ils disent?
Mais voilà. Mais c'est quand même une. C'est bateau. Eric, tu nous dis c'est pas bateau. Je pense que sa réponse est complètement évasive.
Si jamais il n'y a pas de transfert possible,
il peut faire de l'oseille que sur lui, en plus, l'OM. Mmh. Mais donc, il va le vendre. Enfin, je vois pas comment il peut. Pas le vendre. En dernière année, ils vont le filer.
S'ils le vendent, c'est
pas bateau. Mais quand je te dis que c'est pas bateau, ça veut dire que, vu qu'il y a ce coach, et que ce coach, donc, vu son jeu, va beaucoup aimer Jonathan Clauss, obligatoirement. Il envoie un message aux dirigeants en disant, ben, moi, s'il la faut, je reste. Non, parce qu'ils veulent, ils veulent le vendre. Avec un coach comme ça, c'est, moi, je suis prêt à rester.
On zappe Jonathan Clauss. On va s'intéresser à Wimbledon. On accueille donc Eric Salio. Bonjour Eric.
Salut Lionel.
Alors, les qualifs débutent aujourd'hui. Le tournoi, c'est lundi prochain.
Oui.
Et à l'heure où on se parle, donc à une semaine du début de Wimbledon, on ne sait pas si Novak Djokovic pourra y participer.
Oui, mais les chances, Pierrot, ne sont plus nulles. Parce que moi, je pensais que l'opération au ménisque subie le 5 juin des mains du professeur Jérôme Etta allait anéantir ses chances de convoiter un 8e titre à Wimbledon. Mais le Serbe, il n'est pas fait comme les autres, j'ai l'impression. Après une reprise en douceur dans une salle de gym à Belgrade, il a accéléré le processus au Monténégro. Et surprise, il a déboulé hier à Wimbledon. Et cet après-midi, j'ai vu ça sur Twitter, il a fait un match d'entraînement face à l'Argentin Federico Coria sur un court d'Arangui Park. Pour éviter toute rechute, il porte une genouillère qui compresse le genou droit. Il se donne quelques jours quant à quant à sa participation au Championships. Vendredi, jour du tirage au sort, pour moi, ça semble être la date butoir. Mais il faudra évaluer la part de risque, car en début de tournoi, le gazon du center court est particulièrement glissant. Ce serait quand même ballot qu'il se reblesse avant les Jeux Olympiques.
Très bien. Ton pronostic est plutôt pessimiste.
Pronostic vital engagé ou pas? Pronostic vital engagé?
Pas encore.
Après, c'est pas une opération, c'est une.
C'est une arthroscopie.
C'est pas du tout pareil. Oh.
Après, si se blesse à Wimbledon, 10 jours après, il est prêt pour les JO, Novak, je pense.
Non, mais il y aura un choix à faire, probablement.
Surtout qu'il y a beaucoup de blessures sur le gazon. Hein. On a vu
Tu dis pas de Wimbledon, toi.
Il va pas faire Wimbledon, il va aller au JO et puis voilà.
Tout pour les JO. Je crois qu'il est venu pour rien.
Mais vous êtes devenu fou.
C'est sûr qu'il va faire Wimbledon.
Qu'est-ce qu'il est venu prendre l'air, donc. À ce moment, vu le climat, il s'est dit tiens, c'est bien Londres pour aller prendre un coup de chaud.
Mais non, mais il est venu faire une RP pour l'entreprise. C'est comme ça.
Il fait son
one-man show, c'est ça?
Merci Eric pour toutes ces infos concernant Novak Djokovic. L'actu olympique, c'est maintenant sur RMC.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
Et là, on va se tourner vers Denis Charvet. Parce que Denis nous dit depuis des mois, attention, méfiez-vous, aux Jeux Olympiques, les équipes de rugby à 7, ce ne sera pas du tout les mêmes.
Non.
Voici le tirage au sort donc des poules des équipes de France masculines et féminines. Les femmes affronteront en poule les États-Unis, le Japon et le Brésil.
Ça va.
Ça va ?
Oui.
Bon. Les hommes affronteront les États-Unis, l'Uruguay et les Fidji.
C'est pas bon.
Si, c'est bon.
Ah bon?
Mais c'est les deux premiers qui sortent. Oui.
C'est les deux premiers plus les deux meilleurs troisièmes.
Donc, ça passera.
Il y a trois poules de quatre.
Là, ça passe en poule.
Les États-Unis, c'est compliqué, non? Si.
Les États-Unis, ils sont pas mal.
Pas savoir,
Si tu bats pas les États-Unis, tu t'en bats.
Non, Vincent.
Mais arrête, tu sais bien que ça n'a rien à voir, le 7 avec le 15. Aux États-Unis, peuvent te tomber une. Comme les Russes, ils peuvent te tomber une équipe terrible.
Déjà, ils ont une bonne équipe. On sait que les Fidji, c'est le très haut niveau. C'est favori pour le titre olympique.
Les Français, ils les ont battus plusieurs fois.
jouent la médaille d'or.
Ils peuvent encore les battre, là. C'est pas dit qu'au premier.
Dans les passes, ils jouent le podium, bien sûr.
Après, c'est les deux premiers.
La vraie interrogation, c'est les équipes qui vont arriver avec d'énormes joueurs. Enfin, des joueurs qui sont pas.
Les Fidji, par exemple. Une poule avec Irlande. Mais, Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande.
Non, mais la vraie question, c'est Yann Deleg, il est dispo pour avoir un bon coach du temps pour.
C'est pas marrant. Eric, c'est pas marrant.
Tu sais que j'ai joué à l'équipe de France à 7, mais c'est pas grave.
Je connais bien le 7, je vous dis que les Fidji,
écoutez-moi, on en reparlera.
Dis-nous.
Vont arriver avec une énorme équipe.
Mais explique-moi pourquoi ils ont fait
ils ont des joueurs à prendre, ils ont des joueurs à libérer, je te signale, ils ont des joueurs à libérer, et en plus ils ont été très vexés de la défaite face aux Français, ils savent qu'ils ont des clients, ils vont mettre une grosse équipe.
On en reparlera.
Très bien.
Donc vous retenez France. On demandera à Yann que t'as joué à 7, on demandera à Yann.
Fidji, États-Unis, Uruguay pour les hommes.
Je joue à 3, moi.
États-Unis, Japon et Brésil pour les femmes. On zappe et on va garder une minute pour parler de cyclisme avec un nom à retenir pour le prochain Tour de France. Celui du nouveau champion de France de cyclisme, le Normand Paul Lapeyrat. De la formation Décathlon AG2R, la mondiale. Champion de France à l'issue d'une démonstration individuelle et collective.
J'ai rêvé depuis plusieurs mois. Entre le rêver et le faire, il y a deux mondes. Mais l'équipe a fait la course parfaite, il n'y a pas eu un faux pas. À titre personnel, j'ai voulu courir un peu à l'opposé des gros noms qui pouvaient être cités en favori. Et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis retrouvé avec Nicolas Prodhomme dans le final. Et il a fait un travail génial. Et moi, j'y suis concrétisé à l'arrivée. Donc, incroyable.
Alors, on insiste sur la dimension collective de cette victoire, puisque la G2R a communiqué sa sélection aujourd'hui avec Paul Lapeyrat. Bon, quand tu as le maillot tricolore, en général, bon, tu le fais, le Tour de France, mais lui était en balance. En revanche, il n'y aura pas de Benoît Cosnefroy qui, selon nos informations, sera dans la sélection olympique et donc fait l'impasse sur le Tour. La G2R, la mondiale, c'est quand même la troisième équipe au classement international sur la saison. Hein. Donc,
Décathlon,
G2R. Exactement. Une équipe très costaud.
Mais normal, c'est son premier tour.
Pour arriver sur le Tour de France, je crois, oui.
Lapeyrat.
Normand, c'est son origine régionale. Hein. Et il s'est gagné sa participation au Tour en étant champion de France, tout simplement.
Voilà, bravo,
le Tour de France qui démarre ce week-end sur RMC, bien entendu.